VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Au Kenya, les opérations de compilation des résultats se poursuivent. La commission électorale ABC a reçu les résultats de plus de 36 000 des 40 883 bureaux de vote du pays, a annoncé sur son compte Twitter son chef Wafula Chebukati. Le résultat ne fait cependant aucun doute. Le sortant Kenyatta est assuré de l'emporter. Son rival historique, l'opposant Raila Odinga, a décidé de ne pas participer à ce qu'il a qualifié de mascarade électorale. Le taux de participation est estimé à moins de 35% des 19,6 millions d'électeurs sur plus de 90% des circonscriptions dépouillées, a précisé M. Chebukati. Mais au vu de ces chiffres si faibles, à l'opposé du plébiscite souhaité par Uhuru Kenyatta, nombre d'observateurs questionnent déjà sa légitimité selon l'AFP. 3 ans de prison avec sursis et confiscation de biens pour s'être frauduleusement bâti en France, un patrimoine considérable. C'est la peine infligée par la justice française au vice-président de Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, dans l'affaire des biens mal acquis. Théodorin, qui ne s'était pas présenté lors de son procès, a été reconnu coupable d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. En visite de 3 jours en République démocratique du Congo, la représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, était hier à Goma et à Kichanga, au nord Kivu, où elle a notamment visité un camp de déplacés dans lequel vivent près de 15 000 personnes. Madame Haley échange aujourd'hui avec les autorités de la RDC, dont le président de la République, Joseph Kabila, mais la visite de la diplomate américaine est diversement perçue à Kinshasa, nous dit Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire.
À Kinshasa, les attentes sont multiples concernant le séjour de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley. Si pour Lambert Mendeo Malanga, le porte-parole du gouvernement, et l'ambassadeur Kikaya Bin Karubi, conseiller principal au collège diplomatique du président Kabila, la diplomate américaine n'est pas venue parler politique, mais évaluer les réels besoins de la force onusienne en République démocratique du Congo. Au rassemblement, on en attend beaucoup plus. Dans un mémorandum lui adressé à Goma au Nord Kivu, cette plateforme politique de l'opposition réclame des sanctions ciblées contre Joseph Kabila et son entourage. Nous attendons de lui qu'il obtienne du président Kabila le respect de la Constitution et de l'accord du 31 décembre 2016, a précisé de son côté Christophe Lutundula, cadre du G7. Dans les rues de la capitale de la RDC, la plupart des Kinois interrogés espèrent que cette première visite d'un cadre de l'administration Trump permettra l'accélération du processus électoral. Qu'elles mettent la pression sur nos autorités pour nous obtenir l'organisation rapide des élections, car nous voulons aller voter, a dit l'un d'eux. De retour à Kinshasa après Goma et Kichanga au Nord Kivu, Nikki Haley devrait échanger avec le président Kabila, les responsables de la CENIC, le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Mgr Marcel Outembi, et Maman Sidikou, le numéro 1 de la MONUSCO. Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Des milliers de réfugiés sud-soudanais sont sans abri à Khartoum après la démolition de leurs habitations par la police soudanaise. L'alerte a été lancée par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon l'agence onusienne, plus de 450 000 sud-soudanais fuyant la guerre qui ravage leur pays ont trouvé refuge au Soudan voisin. Mais pour Khartoum, ils sont beaucoup plus nombreux et seraient 1 300 000. Ces derniers mois, la police soudanaise a démoli environ 220 abris ou habitations de réfugiés à Khartoum ou a transféré ces personnes vers d'autres endroits sans planification adéquate. Une situation que déplore le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui estime à 2000 le nombre de réfugiés privés de toit à cause de cette action de la police. De nombreux réfugiés, principalement des femmes et des enfants, se trouvaient hier encore dans la zone d'habitat informel où ont eu lieu ces démolitions. D'autres réfugiés ont été transférés à Omdurman, ville jumelle à Khartoum, provoquant, selon la chaire, un surpeuplement et une surcharge du réseau d'eau et des installations sanitaires.
La crise politique qui secoue le Togo depuis 2 mois et qui a fait donc au moins 16 morts a suscité des appels au dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Washington, Paris et la CEDEAO à travers le président Alassane Ouattara demandent l'ouverture de discussions. Comment l'opposition accueille ces appels? Yacouba Ouédraogo a joint Brigitte Adjamagbo-Johnson, la coordinatrice de 14 partis d'opposition.
Au moins une vingtaine de fois, hein, nous avons eu des dialogues qui se sont soldés par des accords qui n'ont pas été respectés. Néanmoins, nous restons prêts pour discuter. Il y a un appel à libérer l'imam de Sokodé et toutes les personnes détenues politiques.
Est-ce un préalable que vous posez avant d'aller sur la table des négociations?
Nous avons déjà fait comprendre à nos interlocuteurs, à des chefs d'État, aux institutions, qu'est-ce que le régime va pouvoir accepter s'il ne pose pas des actes qui montrent qu'il est dans de bonnes dispositions pour trouver des solutions durables.
Vous êtes pessimiste?
Nous sommes optimistes, sinon nous ne nous battrions pas. Nous avons l'espoir que dans tous les cas, malgré toutes les péripéties, le pays ne basculera pas définitivement dans la violence parce que le peuple togolais n'a pas fait ses choix. C'est les mains nues qu'il est sorti et qu'il a montré au monde entier qu'il veut le changement. Et ceux qui sont adeptes de violence, ils atteindront très rapidement leurs limites.
Vous avez demandé une modification de la Constitution, notamment un retour à la Constitution de 1992. Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un projet de modification constitutionnelle. Vous rejetez ce projet-là. Pourquoi?
Nous le rejetons parce que cela ne permet pas d'obtenir ce que le peuple veut. Bien au contraire, si on soumet ce texte, que le peuple ait voté oui ou non, il y aura le même résultat. C'est-à-dire ça va conforter ce régime cinquantenaire avec lequel le peuple veut rompre. Et c'est le fond de la crise. C'est ça le fond de l'histoire.
Vous avez demandé entre autres la limitation des mandats présidentiels à deux, ce qui est contenu dans le nouveau projet. Qu'est-ce qui achoppe véritablement dans cette question de limitation des mandats présidentiels à deux là?
C'est une limitation de mandat qui n'est pas dans l'absolu. On a amputé le bout de phrase qui donne la garantie que plus aucun Togolais n'arrivera à manœuvrer pour rester au pouvoir pendant plus de 10 ans. Et de plus, on a ajouté une disposition dont les conséquences sont telles que tant que le régime actuel sera là, eh bien, il ne sera pas concerné par la limitation de mandat. C'est un jeu de dupes. Le peuple veut changer avec le régime incarné par la famille Nyasimbe depuis 50 ans.
L'opposition entend manifester la semaine prochaine. Il y a eu les récents appels au dialogue. Le gouvernement a interdit les manifestations pendant les jours ouvrables. Qu'est-ce que vous comptez faire?
Nous n'avons jamais reconnu cette limitation-là. Et nous appelons à des manifestations les 7, 8 et 9 novembre.
Pour demander quoi?
Le retour à la Constitution de 92, la révision du cadre électoral, le déverrouillage des institutions, la libération de ceux qui sont injustement détenus parce qu'ils manifestent pour leurs droits.
L'opposante togolaise Brigitte Yamagbo Johnson joint à Lomé. La justice sud-africaine a condamné vendredi deux fermiers blancs à des peines de 19 et 16 ans de prison pour avoir tenté d'enfermer un noir dans un cercueil et l'avoir menacé de mort. Le comportement des accusés a été des plus déshumanisants et répugnants, a déclaré le juge, rendant son jugement devant la haute cour de Middelburg, à 165 km à l'est de Johannesburg.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici à Washington, il est 7h08 40 secondes. Les partis séparatistes catalans ont présenté vendredi au Parlement régional une résolution dans laquelle ils déclarent l'indépendance de leur région menacée de mise sous tutelle du gouvernement central, a annoncé un porte-parole de la coalition indépendantiste au pouvoir en Catalogne. Pendant ce temps, le Sénat espagnol était réuni pour prendre une mesure sans précédent en 40 ans, la mise sous tutelle de la Catalogne. Le rapport de l'ONU désignant le régime syrien comme responsable de l'attaque meurtrière au gaz sarin sur Khan Cheikhoun en avril comporte de multiples incohérences et des témoignages douteux, a dénoncé aujourd'hui la diplomatie russe. Dans un rapport de l'ONU publié jeudi, les experts se sont dit convaincus que la République arabe syrienne est responsable de l'usage de sarin sur Khan Cheikhoun le 4 avril 2017. Et puis le gouvernement conservateur australien a été privé aujourd'hui de majorité par la haute cour qui a jugé que le premier ministre adjoint Barnaby Joyce ne pouvait siéger au Parlement en raison de sa double nationalité. L'action de l'exécutif ne devrait cependant pas en partie dans l'immédiat une élue indépendante ayant affirmé qu'elle ne soutiendrait pas une éventuelle motion de censure de l'opposition. Fin de ce journal, Jean-Roger Bion, Bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.